fait que, effectivement, si on, d'abord, si on, on aime beaucoup rayonner à Rennes, c'est pareil, je suis pas rennaise, hein, je suis là depuis 10 ans, donc c'est un choix d'installation. Donc je suis venue parce que je savais ce que je venais chercher aussi. Et la mère dit souvent, c'est 83 grues en ce moment dans la ville, donc la fierté vient aussi du développement, tout en ayant un discours, et tous les élus on le partage, de dire oui, mais on fait plein de choses et personne ne le sait. Donc il y a une espèce de, voilà, de paradoxe, alors sauf en santé publique, parce que là, à l'international, tout le monde sait où est Rennes, évidemment. Plus pour l'école des hautes études que la ville, hein, mais néanmoins, il y a ce rayonnement. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a ce rayonnement qu'on arrive à mener les politiques santé. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant, bah, disons 45 personnes, comment vous faites pour continuer à mener ça? On a des bénéfices secondaires, voilà, et des pôles d'attractivité. Et ce qu'on a essayé de faire, et c'est aussi parce que l'ODIAR, l'agence urbaniste, s'est impliquée dans Airbus et dans les questions de santé. Et je vais peut-être l'afficher après, l'ODIAR a produit des guides sur intégrer la santé dans les projets communaux. Voilà, il y a un travail là sur l'installation des médecins, mais là c'est vraiment sur les espaces de bien-être et de ressourcement, en passant sur la question de l'attractivité. Et en fait, des espaces où on se sent bien, des espaces de ressourcement, ça fait partie de ce qui va attirer les gens pour s'installer. Et pour finir sur ce qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est donc je suis coprésidente de GUAPO, l'Observatoire global de la pollution de l'air, et Monsieur Ollier, président de la métropole du Grand Paris, a adhéré. Et dans son discours, c'était intéressant, hein, c'était, il y avait après Anne Hidalgo, il disait, ben oui, moi, globalement, politiquement, tous ces machins d'écolo, ce n'est pas mon truc. Sauf que si je veux que des cadres s'installent, si je veux que des médecins s'installent, il faut que je m'occupe de ça. Parce que s'il y a de la pollution, ils ne vont pas venir. Et donc, on a été aussi sur des... L'attractivité, elle va... Il y a le côté iodé, le vocabulaire d'entreprise, mais il y a vraiment cette question de bien-être et de qualité de vie qui, moi, je trouve même en 4 ans, et dans le discours des élus métropolitains, c'était un discours rennais, et dans le discours des élus métropolitains, quelque chose qui a vraiment changé. Et on le voit un peu sur les autres territoires, et ça boucle la boucle par rapport à ton ouverture hier, Michel, sur... Voilà, mais je me disais bien. J'ai bouclé.
Je vais dire 3 mots, je ne vais pas être long du tout. D'abord, merci pour votre exposé qui était vraiment passionnant, très construit, en matière de déplacement, pour ne parler que des questions de transport qui sont avec la santé le fil rouge de ce séminaire, vous reliez fort bien et en permanence les liaisons entre des échelles géographiques différentes et la notion de mobilité, d'accessibilité, c'est Paris et peut-être au-delà, etc. Et on a vu que l'arrivée du TGV à cet égard, ou de la LGV plutôt, parce que le TGV venait déjà, mais à plus de petite vitesse, homogénéisait le territoire en ce que désormais Rennes tient un rang comparable à celui de Tours ou d'autres villes directement desservies, et en même temps structure le territoire localement. La gare est plus que jamais un des points forts de l'agglomération, et c'est le lieu où se relie
la longue...
Il
n'y a plus de courant. Donc, et la gare est le lieu où a... Ah, bah alors.
Oui.
La sécurité. Bon, il y en a qui partent à la faveur de l'obscurité. On monte ou on descend un escalier mécanique et on change d'échelle. On divise ou on multiplie par 10 les distances de référence, et vous l'avez bien dit. Et donc, c'est aussi l'occasion d'un réaménagement urbain très important. Mais j'ai été venu travailler sur la gare de Rennes il y a à peu près 20 ans avec des étudiants. C'était le TGV à partir du Mans, mais c'était déjà la gare qui devenait un pont pour relier les deux côtés des chemins de fer qui étaient historiquement coupés l'un de l'autre, etc., etc. Donc, il y avait déjà cette idée, quand on aura un métro, passera nécessairement par la gare. Voilà, donc merci pour la clarté avec laquelle vous avez repris et bien organisé, articulé, comme on dit, ces différentes mentions. Et puis une petite remarque que j'ai déjà faite ce matin, pardonnez-moi, mais pas à vous. Vous dites que le prochain PLU, c'est un progrès, parce qu'avant, il n'y avait pas d'automobile. Maintenant, on s'aperçoit qu'on ne peut pas ignorer 85% du trafic. Je vous signale qu'il y a aussi les marchandises en ville. Et c'est 20% du trafic, 30% de l'occupation de la voirie, 50% de certaines émissions de polluants,
Et il y a du boulot à la fois en circulation, en stationnement, en immobilier logistique. Et donc, ça peut être aussi un nouveau chapitre d'une politique métropolitaine très importante.
Il y a un volet sur la logistique urbaine. Mais
c'est nouveau.
On a remarqué ce matin combien, alors que sur les politiques, notamment de déplacement actif, etc., en lisant avec la santé, Rennes était... Et puis cette vision d'un métro, alors qu'une ville de sa taille n'aurait pas dû prétendre à un métro, pour reprendre des très vieux débats, c'était volontaire. Et que la question du fret vient aujourd'hui avec un très fort décalage dans le temps. Voilà. Mais bon. Mais voilà, c'est tout. Mais en tout cas, merci pour votre présentation.
Marianne aussi qui veut.
Non, bon, ça va. Tout compris.
Oui, j'ai deux questions. La première, c'est que vous aviez promis de m'expliquer pourquoi la LGV rapprochait plus Brest que Rennes de Paris, ce qui me reste mystérieux. Donc j'aimerais bien comprendre.
Si ça s'arrête plus entre Rennes et Brest.
Il y a, alors, c'est mystérieux, hein, je le conçois, mais il y a plus de TGV avec moins d'arrêts entre Rennes et Brest. Et donc, à ce gain-là, vient s'ajouter le gain de Paris-Rennes de 45 minutes. Donc, en gros, on estime que c'est entre 60 et 65 minutes de gain de temps pour Brest. Ils sont à 3h30, mais on est loin du compte puisqu'ils veulent 3h.
Et alors, mon autre question comporte la politique de l'habitat, dont on perçoit, Charles nous a parlé hier des politiques plutôt orientées vers le logement locatif social. Là, vous nous parlez de régulation des prix. Et je voudrais savoir comment ça se passe pour les prix régulés. Parce que on entend toujours que c'est quand même très problématique pour les collectivités. De donner de fixer les prix de sortie en dehors des logements sociaux ou des logements accessibles, enfin l'accession sociale à la propriété. Comment est-ce que la ville de Rennes s'y prend pour réguler les prix de sortie dans le marché privé?
Alors, c'est pas que la ville, hein, c'est la métropole. Parce que cette politique-là, elle couvre les 43 communes de la métropole, dont évidemment Rennes. C'est prêt autant sur le logement aidé, la métropole finance. Elle consacre entre 20 et 22 millions d'euros par an pour soutenir la production de logements aidés. Ce soutien, il passe essentiellement par la prise en charge de la surcharge foncière. C'est-à-dire qu'elle rétrocède à des coûts extrêmement favorables le foncier qu'elle a acquis il y a déjà 10 ans ou 15 ans aux bailleurs sociaux. Comment elle régule les prix du libre? Elle les régule sous deux angles. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est qu'elle n'aide pas à diminuer le prix du logement pour cette part du parc construit. Il n'y a pas d'aide financière de la collectivité. C'est une vraie exigence qu'ont eu les politiques. Nous n'avons pas aidé les ménages qui ont tout à fait les moyens d'accéder à la propriété. Ça serait mal compris. Surtout dans une métropole qui a la solidarité, qui a le soin de l'inclusion sociale, qui l'a mis à un très haut niveau. Par contre, c'est un contrat qu'elle passe avec les promoteurs. C'est globalement, si vous voulez travailler sur la métropole rennaise, vous devez faire entre 20 et 30% de logements à prix régulé. Autrement, vous ne travaillez pas. Alors, je caricature un peu. Enfin, c'est pas vous travaillez pas, vous n'êtes pas interdit de travailler. Soit vous travaillez en dehors des ZAC, dans le diffus, c'est ce qui se passe quand même de manière assez conséquente. Hein. Ils achètent des belles maisons rennaises qu'ils démolissent et construisent des immeubles à la place, mais bon, dans un cadre qui est tout à fait convenu, hein, qui s'inscrit bien dans le PLU, dans la politique locale de l'urbanisme du territoire. Mais ils s'y retrouvent parce qu'ils viennent. Je veux dire, il n'y a pas de contraintes financières. Si ce n'est, si vous voulez travailler, vous devez, dans votre programme, inclure entre 20 et 30% de logements à prix réduit. Et vous devez inclure, mais là, c'est les bailleurs sociaux qui portent, 50% de logements libres. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quelles sont les conditions pour que ça marche? Ça marche sur un marché tendu, sur un marché où la demande est bien là, et où ils peuvent se récupérer sur le libre. Alors, c'est vrai que, quelque part, il y a peut-être à terme un effet pervers donc, qu'il faudra intégrer, c'est l'explosion, enfin l'explosion c'est trop fort, mais une augmentation significative des prix du marché du livre.
Comment sont attribués ces logements libres au prix du livre ?
Alors, ils sont attribués sous condition de ressources. Voilà, mais je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que je l'ai pas vraiment en tête. Hein. Il y a des spécialistes à l'agence qui suivent ça, mais Charlotte le sait peut-être mieux.
Non, pas spécialement, mais c'est vraiment la maîtrise par ZAC. Hein. Les autres, on en a quoi, 36 sur la ville. On a 30 ZAC sur la ville. Donc c'est vraiment décider de l'utiliser. Et d'ailleurs, l'opposition, enfin, la minorité, ne vote pas une grande partie des délibérations liées aux ZAC parce qu'ils ne sont pas d'accord sur cette place de la puissance publique sur l'aménagement. C'est de la maîtrise. Et ça donne, après, c'est pareil, je ne suis pas en capacité d'entrer dans les détails, mais c'est vraiment une découverte, c'est la façon de dire, non, là c'est nous, mais qui donne pour l'anecdote aussi du lien avec les promoteurs, c'est du gagnant-gagnant. Là récemment, vous avez peut-être vu dans l'IB, on a fait un commoda. C'est-à-dire on a utilisé des bâtiments que les promoteurs avaient rachetés en attendant de faire une opération immobilière pour loger des migrants. Sur un commoda, c'est-à-dire c'est une mise à disposition gratuite qui est gagnant-gagnant, parce qu'eux, ils arrêtent de payer l'eau, l'électricité, que de toute façon, ils n'avaient pas enlevé. Et en plus, ils n'ont pas payé la sécurité, puisque c'est l'association qui gère le squat légal qui s'en charge. Et c'est cette relation de longue date et ces échanges qui sont parfois musclés, hein, effectivement, entre l'adjoint à l'urbanisme et les promoteurs, mais qui fait aussi qu'on est innovant, on fait des choses nouvelles, les promoteurs se mettent dans une logique qui n'est pas celle que du tout capital. Et il y a une quête de sens, je crois qu'il y a aussi un côté, une fierté partagée sur des choses, de dire on fait aussi du social avec des choses comme la caserne MacMahon aussi, qui est des rénovations avec du logement très, très bon, enfin, qui est pas du tout régulé, sur des, et du logement social à côté, et des conventions cadres santé mentale, et qui vivent ensemble dans un même ensemble de réhabilitation. Et je crois qu'il y a une vraie fierté, en tout cas, qui essaye d'être transmise par les élus, y compris aux promoteurs, qui quelque part, enfin, moi, je sens, et c'est plus un point de vue politique que technique, mais cette espèce de fierté de dire, oui, on fait des choses bien, on fait de l'accession aidée, et notre métier a du sens, et on n'est pas que ces espèces de requins qu'on voudrait faire croire.
Les promoteurs dont vous parlez sont des promoteurs nationaux ou des promoteurs régionaux?
Alors, la question est importante, hein, parce que effectivement, c'est des promoteurs plutôt locaux et régionaux qui se sont construits autant qu'ils ont construit une grande partie du parc sur le territoire et qui ont co-construit avec la puissance publique un peu ces règles du jeu dont ils ont vraiment tiré bénéfice, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils ont pu se développer, ils ont produit, comme le disait Charlotte, des biens dont ils peuvent tirer une certaine fierté. Alors, en même temps, c'est bien, parce qu'ils connaissent les règles, ils les respectent, mais c'est aussi un défaut sur le territoire, parce que on voit bien que pour aller plus loin, on a aussi besoin de grands promoteurs nationaux. Ce sera, alors peut-être, est-ce que c'est juste un signal, mais c'est le signal que le territoire rennais devient un territoire d'investissement qui mérite, y compris à l'échelle nationale, voire européenne. Hein, les Kaufmann et Broad, etc. Ils sont là, hein, Bouygues est là, etc. Mais ils ne sont pas de manière massive. On le voit dans quelques opérations, ils commencent à apparaître. Alors, c'est compliqué, c'est ambivalent comme situation. C'est-à-dire que si on veut que les règles du jeu soient bien respectées, il vaut mieux travailler avec les Legendre, la Motte, etc., qui sont très présents et qui jouent vraiment le jeu. Mais on a le défaut qui est l'absence de grands promoteurs nationaux ou internationaux. Mais de notre côté, le jour où ils seront là, comment on fera respecter les règles? Bon, ça sera plus compliqué.
Comment se positionnent les villes moyennes bretonnes entre Rennes et Brest? Je pense à Quimper, Lorient, Vannes. Comment elles se positionnent dans la dynamique de développement?
Alors, il y a une vraie difficulté. Je vous ai parlé de coopération. La Bretagne a une culture. Hein, la culture bretonne, c'est... comment le dire? C'est les villes moyennes. Les villes moyennes d'abord. Le fait métropolitain en Bretagne est un fait qui est très discuté et très contesté. Avec un paradoxe, c'est que pour la plupart des villes moyennes, la présence des métropoles, que ce soit Brest ou Rennes, est un facteur d'appauvrissement, est perçu comme un facteur d'appauvrissement de leur propre territoire. C'est pas nouveau, hein, ça existe à peu près toutes les régions. Mais ça se double de cette idée que d'ailleurs Yves Morvan avait pointé, c'est un géographe, historien, ancien président du Césaire, ici, qui est liée à la grande histoire bretonne. La grande histoire bretonne, elle est différente de celle des autres régions parce que les migrations du rural vers l'urbain, qui ont renforcé les villes sur des décennies et sur les siècles passés dans toutes les régions de France, n'a pas eu lieu en Bretagne. C'est pas qu'elle n'a pas eu lieu, c'est que la migration, elle s'est faite du rural vers Paris. C'était la grande difficulté économique qui a connu cette région, qui a fait que le renforcement démographique des villes, ben, s'est fait au profit de l'Île-de-France et pas des grandes villes bretonnes. Ce qui fait que, par exemple, autour de Rennes, y a la plus grande ville moyenne en Ille-et-Vilaine, c'est Saint-Malo, c'est moins de 50 000 habitants, c'est 44 000 habitants. C'est la plus grande. Redon, qui est considérée comme une ville moyenne, c'est 9 000 habitants. C'est tout petit, quoi. Et on est dans cette logique-là. Rennes a été la première grande ville à émerger, la première grande métropole à émerger sur la Bretagne. D'où la difficulté de son acceptation. D'où la vision qu'elle peut avoir dans ce monde de ville moyenne qui est une vision négative. Même si toutes les études, que ce soit les nôtres ou celles du CNRS, démontrent qu'en Bretagne, s'il y a une métropole qui a un effet favorable sur son environnement et sur son réseau de villes moyennes, c'est Rennes. Brest, pour reprendre les propos de Nadine Levrato, est un trou noir. C'est-à-dire qu'elle absorbe... C'est ses propos. Hein. Elle absorbe la richesse, elle absorbe les emplois au détriment de son environnement et des villes moyennes autour.
Sur le TGV, juste une information... Est-ce que vous avez une idée de la croissance de fréquentation du trafic en un an, l'arrivée de la grande vitesse a entraîné?
La SNCF a communiqué là-dessus avant la grève. Donc,
oui, bien sûr.
Mais plus 25%.
Ah oui, c'est bon.
Très, en 6 mois, hein, plus 25% en 6 mois. Donc il y a... Puis, je veux dire, la grève joue pour beaucoup, mais c'est difficile d'avoir les trains du matin et les trains du soir. Hein. Il faut se battre, quoi. Il faut s'y prendre longtemps à l'avance.
Les directs.
Oui, les directs. C'est ceux qui mettent Paris à 1h27. Quoi.